Le 11 et 12 juin 2024, à l'occasion du colloque inter-ENS intitulé « L'égalité des chances, la diversité, l'ouverture », Cadécole est allé tendre son micro aux différents intervenantes et intervenants de ses deux premières journées à l'ENS de Lyon. Dans cet épisode, nous accueillons Stéphane Moulin, professeur titulaire au département de sociologie de l'Université de Montréal et directeur de la revue Sociologie et Société. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans un premier temps, est-ce que vous seriez d'accord de nous présenter de manière générale le fonctionnement de l'enseignement, enfin de la fin de l'enseignement secondaire et le passage à l'université au Québec ?
Merci d'abord pour l'invitation et me donner l'opportunité de présenter le système québécois d'enseignement supérieur. Le système a cette particularité d'avoir un ordre d'enseignement entre le secondaire et l'université, donc qu'on appelle le collégial. Et c'est une particularité unique en Amérique du Nord, au sens où on doit passer par le collégial pour aller à l'université. Alors, par rapport au système français, hein, si on compare, on entre au collégial au moment de la terminale, donc un an avant le baccalauréat français. Et le collégial, ça ouvre soit à la préparation à l'université, qui dure 2 ans, soit à la préparation à des formations techniques. Donc là, c'est les collèges techniques. Et ça dure 3 ans. Et donc, les Québécois rentrent à l'université quand ils préparent l'université au cégep, pendant donc 2 ans plus tard, ce qui correspond donc un an après l'entrée à l'université en France. Donc c'est vraiment intermédiaire entre le secondaire et l'université, le secondaire terminant une année avant le terme de la France.
Et dans le secondaire, les élèves sont déjà séparés en technique et... Enfin, ils savent déjà s'ils vont aller en cégep technique et ils sont déjà séparés ou c'est vraiment au cégep que les choses se séparent ?
Non, alors il y a des filières dans le secondaire, mais c'est vraiment une formation générale, le secondaire. Et il y a évidemment des filières professionnelles que l'on peut aussi prendre à l'issue du secondaire ou même chercher des certifications avant la fin du secondaire. Mais globalement, il faut avoir le diplôme d'études secondaires pour rentrer dans des formations techniques qui mènent au marché du travail.
D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous présenter du coup plus précisément ce moment du collégial, ce qu'on appelle le cégep et son fonctionnement ?
Oui, alors comme je l'ai dit, donc il y a la formation préparatoire à l'université qui dure 2 ans. Et il y a toutes les formations techniques qui durent 3 ans. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on fait une formation technique qu'on ne peut pas repasser ensuite et décider d'aller vers l'université. Donc ce ne sont pas des filières qui destinent les personnes irrémédiablement à un parcours scolaire déterminé. Mais elles orientent toutes les personnes, donc soit en filière préparatoire, générale, soit en filière technique. Alors après, il y a évidemment des spécialités. Là, on peut être en sciences, on peut être en sciences sociales, humaines. Et évidemment, ça joue énormément sur, après, ce qu'on peut choisir à l'issue de la formation collégiale quand on prépare à l'université. Et il y a un système de sélection assez spécifique au cégep qui passe par un indice qui s'appelle la COTER.
Alors, qu'est-ce que la COTER ?
Alors ça, c'est une longue histoire, la COTER. Peut-être si on revient un petit peu dans l'histoire, si je peux me permettre, avant de parler de la COTER,
oui.
C'est revenir sur pourquoi on a instauré en fait les cégeps. Donc c'est dans les années 60 qu'on a instauré les cégeps. Au moment où on a fondé finalement le système d'éducation au Québec, il y a une grande commission qui s'est mise en place, qui s'appelle la commission Parent, et qui a donné lieu à un rapport où on a décidé, avec lequel on a décidé de créer le ministère de l'Éducation, mais aussi les premiers cégeps, donc en 67. Et puis, après, tout le réseau de l'université publique en 68. Et c'était vraiment une création pour rendre plus accessible l'enseignement supérieur qui était vraiment réservé à une élite. Donc, c'est vraiment les principes d'accessibilité et de démocratisation. Ce moment, hein, de cette période d'accessibilité et de démocratisation a duré jusqu'aux années 80. Et là, on a commencé à penser différents mécanismes de sélection. Donc, au début, c'était juste la moyenne, collégiale. Et puis... Finalement, après, c'est la Code Z qui est apparue. Ça, c'est un premier moment où on a pensé une sélection, un mode de sélection. Donc, la Code Z, c'est en quelque sorte le rang dans le groupe de référence de l'élève, le rang relatif. Et donc, le système de la Code R, il s'est mis en place après, donc en 95, avec un premier système. Et récemment, il a été changé en 2017. C'est un indice dont le calcul a été changé. Donc, c'est une longue histoire où on est passé d'une logique de démocratisation à une logique, on va dire, plus de sélection, avec une perspective très technique, où finalement, on a statistisé le débat sur l'entrée dans le supérieur, en conditionnant tous ces systèmes d'entrée, surtout à cet indice qu'on appelle la cote du rendement du collégial.
Du coup, tous les élèves qui postulent au cégep ne peuvent pas forcément entrer au cégep ? Parce que s'il y a un indice de sélection ?
L'indice de la cote R, c'est un indice qui est utilisé à l'accès aux programmes contingentés de l'université. Donc, par exemple, le programme qui est le plus contingenté, plus sélectif, c'est le programme de médecine. Donc, les comités qui s'occupent du recrutement en médecine n'acceptent des candidatures que parmi les étudiants qui ont des cotères qui excèdent 35, ce qui est énorme.
Du cégep, à l'issue des deux ans.
Donc, ça, c'est à l'université. Mais cette cotère, elle est calculée à partir de tous les résultats du cégep et aussi de la performance du groupe de référence des étudiants au secondaire. Donc c'est un indice assez curieux, hein, où on prend en compte à la fois les notes que les gens ont au collégial, mais ce qu'on appelle une indice de force de groupe qui est calculé à partir des épreuves secondaires ministérielles que tous les étudiants ont passées à la fin du secondaire et qui permettent de les comparer entre eux sur une même base, puisque c'est les mêmes épreuves. C'est sur cette base-là qu'on calcule des indices de force de groupe qui sont censés corriger finalement, la force de l'élève qu'indiquent les résultats qu'ils ont au collégial.
D'accord. La question qui se pose du coup en lien avec les journées du colloque qui se tient ces jours-ci, c'est en quoi est-ce que les cégeps participent à limiter les inégalités dans l'accès à l'université ? Est-ce qu'il y a une politique de limitation de ces inégalités ? Et en quoi est-ce que les cégeps y participent ? Quel est votre avis là-dessus ?
D'abord, il faut rappeler que les cégeps sont c'est quasi gratuit, hein, le système public. Donc les cégeps eux-mêmes, il y a aussi après les collèges privés qui sont à côté. Donc il y a une hiérarchisation quand même qui est assez forte au niveau du collégial, mais les cégeps publics sont quasi gratuits. Et au moment où on a fondé les cégeps, l'idée, c'était d'élargir l'accès à l'enseignement supérieur. Et on peut dire, de ce point de vue-là, que ça a tenu ses promesses dans le long terme. Actuellement, sur les 25-34 ans, on a 40% de diplômés du cégep seulement, mais on a 40% aussi de diplômés de l'enseignement supérieur, de l'universitaire. Donc en tout, ça fait 80% des gens des 25-34 ans qui ont un diplôme de l'université ou du cégep, ce qui est très élevé. C'est d'ailleurs la proportion qui est la plus élevée au sein du Canada. Et en grande partie, le cégep, à la création des cégeps, ont permis ça. Parce que c'est vraiment des programmes qui se veulent non sélectifs, même si évidemment il y a des hiérarchies et que certains des cégeps font des sélections très importantes sur la base des examens ministériels, du résultat des élèves aux examens, aux épreuves ministérielles du secondaire. Donc ça en soi, ça a été sans doute un vecteur de démocratisation. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a eu cette deuxième phase où on a développé une vision un petit peu plus techniciste de la sélection par la cote R. Ce qu'affichent les institutions au Québec, c'est que grâce à cette cote R, on a une équité parfaite. Et c'est assez étonnant de voir des institutions qui affichent cette équité parfaite. Et avec certains de mes collègues, on a essayé de déconstruire ce discours-là en regardant à la fois, en faisant des simulations et en regardant aussi les données du ministère. Ce qu'on montre, c'est qu'en en fait, il y a des inéquités de plus en plus fortes qui se mettent en place derrière ce discours d'équité parfaite. Et ça, c'est assez problématique, cette disjonction, parce que les étudiants stressent énormément avec ce système de la cotère. Et en même temps, on a des institutions qui leur disent qu'il est entièrement légitime qu'ils n'aient pas accès à telle formation contingentée parce que leur cotère est moins élevé. Et donc, il y a une espèce de tension qui est créée à travers ça.
Ça me fait un peu penser au système de Parcoursup qui est en France nouveau, enfin récent, et qui aussi, dont on ne sait pas trop si l'algorithme, enfin on ne sait pas trop comment il est calculé et comment les élèves sont hiérarchisés, donc ça les fait énormément stresser. Mais en même temps, on leur dit oui, c'est normal, vous n'êtes pas assez bon pour accéder. Donc c'est un peu le même système, j'ai l'impression.
Alors vous avez tout à fait raison qu'il y a des parallèles à faire. D'abord, le stress des étudiants, il est majeur. Ensuite, le fait qu'il y ait des commissions qui utilisent finalement des instruments qui sont proposés par le système pour sélectionner. Après, il y a des différences assez majeures. La cotère est un indicateur national, enfin national au niveau du Québec. Hein. C'est-à-dire que c'est un système de calcul qui est le même pour tous les élèves. Alors que dans Parcoursup, hein, Parcoursup propose une plateforme et après les commissions peuvent choisir de pondérer comme elles le veulent. Donc, par exemple, donner plus d'importance à la lettre de motivation ou plus d'importance à certaines notes. Là, ça n'est pas le cas au Québec. Donc, c'est comme s'il y avait une mesure qui synthétisait la valeur de l'étudiant et qui, en plus, il y a une forte légitimité qui est associée à cette mesure par les institutions. Donc, c'est difficile de critiquer cette mesure, alors même qu'en fait, il y a certains problèmes assez importants qui dérivent de la façon dont la cotère est calculée.
Et du coup, vous diriez que c'est ici qu'on trouve les limites peut-être de cette ouverture que propose le CEGEPS?
Oui, tout à fait. Je pourrais prendre un exemple. On a, par exemple, un élève qui est dans un cégep où se concentrent les élèves qui ont eu les meilleurs résultats au secondaire. Donc, un cégep ou un collège, parce que c'est souvent des collèges privés, va avoir un avantage lié à l'indice de force de groupe. Et ces notes vont avoir beaucoup moins d'importance parce que son groupe va être aussi plus homogène, regroupant que des élèves forts. Et donc, ce qui va primer le plus dans le calcul de la cotère, c'est l'indice de force de groupe moins que ses notes. Donc, ça va privilégier les élèves qui sont moyens dans ces groupes forts. À l'inverse, les élèves qui sont très forts dans des groupes faibles, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qui regroupent des élèves qui ont eu des mauvais résultats ou des résultats plus faibles aux examens ministériels, ces élèves, même s'ils sont extrêmement forts, même s'ils ont eu des notes parfaites au secondaire, des notes parfaites au collégial, n'arriveront pas à accéder aux formations les plus contingentées parce qu'ils vont être pénalisés par l'indice de force de groupe. Donc, ça peut conduire à une espèce de désespoir un petit peu pour certains élèves qui voient qu'ils n'arrivent pas à améliorer leur cotère, alors même qu'ils ont eu tout le temps des notes parfaites, que ce soit au secondaire ou au collégial. Donc ça, c'est le côté pervers de ce système qui fait asseoir le calcul en grande partie sur l'indice de force de groupe. Et donc, qui peut perdre même son caractère méritocratique, entre guillemets.
Donc, notre entretien touche à sa fin. Merci beaucoup, Stéphane Moulin, pour avoir répondu à nos questions. Et merci d'être venu. À la production, Adeline Unscheringer, et à la réalisation, Sébastien Boudin. À bientôt sur Cas d'école.